France Alzheimer 04 propose des formations pour les aidants, des formations essentielles dans ses locaux manosquins. Reportage.
Violette Deligny, bénévole à l'association France Alzheimer 04 à Manosque. J'étais avant la retraite aide médico-psychologique et j'ai la formation d'assistante de soins en gérontologie. Donc ce qui me permet de faire avec Madame Marmagne Françoise, la psychologue clinicienne, la formation des aidants. Donc moi dans cette formation, mon rôle consiste à donner des conseils, on va dire, aux familles, du lever au coucher de leur personne souffrante, selon bien sûr le degré d'atteinte de la maladie. Donc, conseil sur la façon de les prendre par la main, de leur parler, de faire la toilette. Beaucoup de conseils qui leur sont donnés au cours de cette formation. Le coucher, la promenade, les repas. Mais tout ça, c'est vu avec donc la psychologue et moi-même.
Pourriez-vous nous parler de l'association France Alzheimer qui se trouve sur Manosque?
L'association a été créée en 1993. Bien sûr, nous faisons partie de l'Union nationale qui, elle, est à Paris, hein, comme toutes les associations France Alzheimer et maladies apparentées. La présidente, Mme Arkilovitch-Catherine, a repris cette association en 2018. Et donc, cette association accompagne les familles touchées par la maladie. Donc, nous servons à les accompagner, leur donner des conduites à tenir, etc., pour que ça se passe le mieux possible avec leurs proches. Et pour cela, donc, nous avons des actions, donc ce que nous appelons la FAI, la formation des aidants. Donc voilà, comme ça avait été écrit un peu, enfin, donné précédemment, voilà, donc formation pour leur apprendre la maladie et puis comment faire avec la personne souffrante. Le groupe de parole qui est pris en charge aussi par un psychologue, donc tout ça c'est pour les aidants. Les entretiens individuels faits également par un psychologue. La sophrologie qui sert aussi aux personnes, aux aidants, pour qu'ils puissent aussi un peu évacuer leur stress. Le yoga. Tout ça, c'est pour les aidants, pour les aider. Il y a aussi la VAMA qui est donc fait par un psychologue qui parle avec eux de la maladie, parce que la VAMA est proposée aux personnes en début de maladie.
Et la VAMA est une formation.
Voilà, oui, tout à fait. Hein. Enfin, c'est pareil, c'est pour mais les personnes en début de maladie, de façon à qu'elles restent intégrées à la société, qu'elles puissent continuer le plus longtemps possible tout ce qui leur est possible de faire. Pour les aider, donc, il existe le groupe d'entraide. Donc, ça dure 2h30. La première heure, ils sont en activité avec un psychologue. Et ensuite, moi, je reprends l'heure et demie suivante pour faire des activités plutôt manuelles. Ça peut être aussi des chants, ça peut être un gâteau, ça peut être des compositions florales. Un peu d'activité, quoi, ou des sorties quand on en a la possibilité. Il existe aussi l'atelier musicothérapie, donc avec une professionnelle qui vient, avec lesquelles les malades passent un très très bon moment. L'art thérapie, pareil, fait aussi par une art thérapeute. Et puis donc, la ligne écoute, tout ce qui est fait avec l'association France Alzheimer 04.
Qu'est-ce qu'on peut constater du côté des aidants, parce que c'est très compliqué, je veux dire, d'être un proche d'une personne atteinte par cette maladie.
Alors les aidants, justement, oui, quand ils viennent comme ça aux formations des aidants, ils nous expliquent bien sûr leur raison d'être là, et c'est vrai qu'ils arrivent avec une grosse charge mentale et voire physique, parce que c'est, comme vous le dites, très compliqué. C'est très très lourd. Notre rôle, c'est d'essayer justement de leur donner des conseils, des petites choses à faire, où se renseigner, comment obtenir des aides, etc., pour essayer de les soulager et être à leur écoute. Notre but, c'est d'être à l'écoute des familles. Donc après, même s'ils veulent nous rappeler, ou rappeler les psychologues ou la présidente, on est toujours à leur disposition.
Les gens venant vous voir, les aidants, se sentent moins seuls. Est-ce qu'ils peuvent échanger avec d'autres aidants?
Oui, absolument. C'est aussi le but, qu'ils s'inscrivent et qu'ils puissent faire les formations et effectivement échanger avec d'autres, sentir qu'on n'est pas seul au monde à avoir ce problème. Malheureusement, que ce soit la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées, ça permet des échanges très, très utiles, ne serait-ce que moralement, oui.
Est-ce que dans votre permanence, il y a également un accompagnement au niveau peut-être administratif?
On leur donne des conseils, effectivement, des listes donc de voir éventuellement avec le CCAS de Manosque et puis différents organismes administratifs pour les aides qu'ils pourraient éventuellement obtenir, comme l'APA ou les assistantes sociales. Notre adresse est donc France Alzheimer 04. Le local se situe au 37 rue Chacandier à Manosque.
Françoise Marmagne, vous êtes psychologue clinicienne et vous intervenez aujourd'hui à l'association Alzheimer France sur Manosque pour une formation.
Ce sera la troisième formation que je fais dans le cadre de France Alzheimer. J'ai également fait une formation, là c'était tout nouveau l'année dernière, pour des aidants, mais qui avaient déjà leurs proches en EHPAD.
Comment se décline cette formation ?
Elle se décline en quatre fois, des groupes de quatre fois 3h30. Donc les gens sont présents. Normalement, ce qui serait judicieux pour chacun, c'est qu'ils soient présents à ces quatre modules de formation où on traite des sujets différents. Mais c'est vrai que, compte tenu de la pathologie de leurs proches, il y a des moments où les gens ne peuvent pas se rendre disponibles. On essaye à chaque fois, du coup, de reprendre. Donc la première partie, c'est toute une partie sur les troubles que l'on trouve dans cette maladie. La deuxième partie, mais qui souvent se regroupe avec la première, c'est en fonction des troubles que les personnes ont, comment les proches peuvent faire, comment ils peuvent adapter leur manière d'être et leur manière de faire. Il y a une troisième partie qui concerne toutes les aides possibles, tout ce qui existe de manière générale et plus particulièrement sur le 04, à quel organisme les proches peuvent faire appel et de quelles aides ils peuvent bénéficier. Et la quatrième partie, c'est tout un travail sur l'idée de est-ce qu'un jour mon proche ira en établissement et le fonctionnement de l'établissement.
J'imagine que c'est une grande question pour les familles.
Ça dépend de à quel moment est la maladie en fait, parce que c'est vrai qu'au tout début, c'est ce qui nous est arrivé dans un des groupes, les personnes ne veulent même pas en entendre parler. C'est j'irai jusqu'au bout, je ferai ce qu'il faut jusqu'au bout, etc. C'est vrai que c'est une maladie qui touche la personne qui développe cette maladie, mais qui touche énormément les proches. Il y a énormément de fatigue, il y a énormément de culpabilité, de pas savoir faire. Assez fréquemment, il y a quand même un positionnement à un moment donné de la maladie pour une entrée en établissement.
Donc la formation que vous proposez, vous sentez vraiment que c'est d'une réelle utilité.
Comme dans toute formation, on fait une évaluation à la fin. Et c'est vrai que les retours, c'est que ça a à la fois beaucoup aidé. Alors ce n'est pas un groupe de parole. France Alzheimer propose aussi des groupes de parole. Donc on n'est pas là pour parler de sa situation, mais bien évidemment qu'on l'évoque. Mais ça, l'apport théorique, entre guillemets, permet aussi aux gens de comprendre là où leur proche en est. Et ça les aide vraiment dans le quotidien. C'est vraiment le retour qu'ils font.
04, le 05, enfin en tout cas les Alpes d'Haute-Provence sont un territoire assez rural. Est-ce que ça peut poser dans ce contexte-là quelques difficultés ?
Alors, je pense que ça pose problème. Alors, pas tant pour l'accompagnement au quotidien quand les gens sont à domicile, mais ça pose plus de questions, en tout cas de manières de réfléchir différentes, dans la mesure où les établissements d'accueil ne sont pas forcément proches du domicile. Et c'est vrai que c'est quand même important. Il y a toujours à veiller à ce que le proche ne se fatigue pas non plus, une fois que le malade est en institution, à aller tous les jours en institution. Et ça, c'est quelque chose qu'on a abordé dans une des formations sur mais comment je fais pour choisir un établissement. Je pense qu'un des critères, c'est effectivement la proximité de l'établissement par rapport au domicile.
Il me semble, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, que chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, le passé ressurgit assez fréquemment. Qu'est-ce qu'on en fait de ce passé ? Comment le gère un aidant ?
Dans un premier temps, c'est le présent qui s'efface. Voilà. Et effectivement, il y a une difficulté d'orientation. Et sur le plan cognitif, il y a des éléments de la mémoire biographique. Les souvenirs anciens peuvent ressurgir. Ce qui est compliqué pour le professionnel quand on est en établissement, ça va être d'arriver à comprendre ce qui fait que ce morceau de passé-là surgit. Qu'est-ce qui fait que c'est à ce moment-là que ça surgit. Pour un proche aidant, ce qui est compliqué, c'est de ne pas essayer de ramener trop violemment la personne dans le présent, dans le ici et maintenant. Parce qu'il y a un espèce de télescopage entre ce qui se vit dans le moment et des souvenirs qui remontent. Et l'idée, c'est pas de lui dire « Mais non, t'as tort, tu dis n'importe quoi. » Et donc là, l'idée pour l'aidant, pour le proche, c'est vraiment d'apprendre à faire avec ses souvenirs qui remontent sans être ramené à tout prix son proche dans le présent, dans l'ici et maintenant. Et ça, ça peut être compliqué. Je crois qu'il y a une des choses qui est importante aussi, c'est le fait que ces groupes de formation permettent aux gens de, à la fois, arriver à parler de là où ils en sont avec leurs proches, mais de voir aussi qu'ils ne sont pas seuls et que d'autres peuvent partager leurs difficultés. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Pour autant, c'est effectivement pas un groupe de parole, mais ça sert aussi à ça.
Écoutons Catherine Arkilovitch, présidente de France Alzheimer 04, qui n'a pu se déplacer. Nous avons donc réalisé une interview par téléphone. Catherine Arkilovitch, vous êtes présidente de France Alzheimer 04 sur Manosque.
J'ai repris l'association en 2018. Avant, c'était Madame Bombana. Cette association existe depuis 1993 dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes affiliés à l'Union à Paris. Ça veut dire qu'il y a une centaine d'associations qui font partie, si vous voulez, de France Alzheimer, l'Union à Paris. On est des associations loi 1901. Ça veut dire qu'on est libre, mais on a un cadre, si vous voulez, qui est très intéressant pour nous. C'est que toutes les actions qu'on met en œuvre, pratiquement toutes, sont remboursées par l'Union. Voilà. Et moi, je vous dis la vérité, étant donné que je connais bien le monde associatif, ça n'aurait pas été le cas. Je ne pense pas que je me serais engagée de la même façon, parce que c'est vrai que là, on a une force d'organiser et de proposer pratiquement. Il y a un cadre, on va dire qu'il y a un cahier des charges, mais si vous voulez, dans ce cadre, on fait ce qu'on veut.
D'accord.
On embauche qui on veut et surtout on organise ce qu'on veut. Donc c'est extraordinaire, moi j'ai jamais eu ça de ma vie. Hein. Et ensuite, on est remboursé par l'Union à Paris.
Quel est l'objectif de l'association globalement sur le niveau, au niveau national, mais plus spécifiquement sur l'antenne de Manosque?
Alors de toute façon, toutes les associations départementales ont les mêmes objectifs. On a toutes les mêmes objectifs. Ça veut dire, alors le mot aide, bien sûr, aider, écouter, accueillir, conseiller, informer les familles touchées par les maladies neurodégénératives. Ça veut dire que c'est pas juste Alzheimer. Ça peut être la maladie à corps de Lévy, ça peut être la maladie de Parkinson, enfin voilà, toutes ces maladies neurodégénératives. Les familles nous contactent, ben là, voilà, un exemple. Ce matin, j'ai eu un appel de Dean, d'une dame dont le papa est Alzheimer et qui me dit « je ne sais pas quoi faire, aidez-moi ». Voilà, ça c'est tout le temps.
Une partie pour les aidants et une partie pour les aider également.
Oui, mais enfin c'est pareil, c'est pas les malades, les aidés qui nous appellent. Ce sont les aidants qui nous appellent et on va voir effectivement comment on peut les accompagner, les aider. Enfin voilà, ça dépend le stade de la maladie, ça dépend ce qu'ils veulent, ça dépend de plein de choses.
Alors France Alzheimer, c'est près de 2200 bénévoles répartis, vous lisez, sur 102 associations au niveau national. Sur l'antenne de Manosque, recherchez-vous d'autres bénévoles?
Alors nous, on a très peu de bénévoles. Et d'un autre côté, moi, j'aimerais bien avoir des bénévoles à partir du moment où le bénévole ou la bénévole vient avec un projet. Parce que si vous voulez, sinon on n'a pas le temps de former quelqu'un. Et si quelqu'un arrive en disant, bah, par exemple, Madame Deligny, elle a un projet, elle avait un projet, donc elle est en binôme sur les formations des aidants. Et là, par exemple, cet après-midi, elle anime un atelier créatif pour les malades. C'est du concret. On a été assez déçus par ce qu'on a pu avoir comme bénévoles. Elles viennent, mais elles ne savent pas quoi faire. Et puis après, quand elles se disent, ah ben non, il y a trop de choses. Voilà. Non, il faut quelqu'un qui dise, voilà, moi j'ai envie de m'occuper, par exemple, d'emmener les malades en promenade. Je vous donne un exemple. Ben voilà, ça c'est un projet. Pour avoir des bénévoles, comme une dame qui m'a appelé l'autre fois en me disant, je voudrais bien venir passer quelques heures, mais je ne sais pas quoi faire. Ben non. Madame Deligny, elle est au départ aide-soignante. Mmh. Elle est aide médico-psychologique. Elle a travaillé en EHPAD. Donc, elle a les compétences et la capacité de travailler avec des malades. Il est hors de question qu'on confie des malades à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la maladie. C'est trop compliqué, si vous voulez.
Bien sûr.
Sinon, on a des psychos. Hein. On travaille avec beaucoup de psychos. Mais bon, eux, ils ne vont pas s'occuper de ça. D'autres fonctions dans l'association.
Alors, on sait bien que seule la mobilisation de tous permettra de vaincre la maladie d'Alzheimer. Alors, justement, faire un don est important.
Alors, on a deux façons de s'engager. On a des adhérents. Là, on en a 70 dans l'association l'année dernière. Ça veut dire que c'est une adhésion de 34 euros. Et là, donc, ce sont des adhérents de l'association. Et on a des gens qui nous font des dons. On vient de recevoir un don assez important d'une famille qu'on ne connaissait pas. Je ne vais pas donner le nom. Je sais qu'elle est une famille d'oraison. Il y a eu un décès de quelqu'un de voilà, qui est Alzheimer. Et comme ça se fait dans certains endroits, on passe, si vous voulez, il y a un endroit où on va pouvoir mettre de l'argent parce que la famille a dit, voilà, faites un don pour Alzheimer. C'est ce qui s'est passé là. Et donc, cette personne nous a envoyé plusieurs chèques de personnes qui ont donné des dons pour France Alzheimer, 04.
À quoi servent ces dons? À financer la recherche, mais encore?
Surtout à financer la recherche. Si vous voulez, nous les dons après, c'est pas nous qui les gérons. Nous les dons qu'on a, si vous voulez, pour nous, ça sert à faire marcher notre association.
Oui, bien sûr, les associations départementales.
Après, les dons pour Azama, évidemment, en premier lieu, c'est pour la recherche.
Oui.
Vous voyez bien que c'est quand même une maladie redoutable parce que il y a énormément d'argent dans tous les pays du monde, au Canada, aux États-Unis, etc. Et pourtant, pour le moment, ce n'est pas une maladie qui se guérit.
Je rappelle à nos auditeurs que s'ils souhaitent faire un don, il y aura 66% de déduction fiscale. C'est important
absolument.
De le préciser.
Absolument. Et donc, quand ils nous envoient un chèque et qu'ils font un don, nous, on leur envoie un reçu fiscal qui leur permettra de déduire cette somme de leurs impôts.
J'ai lu qu'un rapport d'Alzheimer Europe projette une augmentation de 64% des personnes vivant avec un Alzheimer, une maladie apparentée, d'ici 2050.
Ben écoutez, ça les médecins qui disent ça, nous on n'en sait rien. Je ne sais pas et on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, même en quelques années, on a des malades de plus en plus jeunes. Ça, c'est une réalité.
Alors, depuis combien de temps, à
peu près ? Je veux noter aussi, qui est important, on est quand même dans une zone rurale. Eh bien, on n'a pas d'agriculteur. On a eu une fois un agriculteur. On a des chercheurs de cadarache, on a eu. On a des professeurs. On a. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Avec
oui.
Un niveau d'études assez des capacités cognitives et pourtant ces gens sont malades.
C'est ce qu'on peut constater sur notre territoire, hein, rural.
Oui, c'est quand même très étonnant. Moi, je pense que peut-être que dans des zones rurales, les agriculteurs ils viennent pas nous voir, peut-être. C'est possible. Et moi, je connais, j'habite dans un petit village, je vais pas dire le nom, je connais des familles Alzheimer, mais ils n'ont jamais fait appel à l'association. Ils débrouillent entre eux. Et vous savez, madame, il y a aussi que... Alors, moi maintenant, mais jusqu'à maintenant, c'est une maladie honteuse. Parce qu'on ne disait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? La maladie d'Alzheimer, il ne faut pas en parler.
Bien sûr, bien sûr.
Une maladie neurodégénérative, ce sont des gens qui, à un moment donné, ont une relation au réel qui n'est plus la bonne.
Évoquons un petit peu la maladie. Selon vous, est-ce qu'un dépistage précoce est fondamental ?
Précoce sur quoi ?
Un dépistage précoce, je ne sais pas.
Non, mais sur quoi ? Non, moi, je ne suis pas... Enfin,
d'accord.
Après, ça, ce n'est pas ma partie. Mais précoce... Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de test.
D'accord.
On commence, si vous voulez, à faire un test ou surtout un IRM, parce que c'est comme ça qu'on voit, quand il y a des symptômes. Un test de quoi ? Moi, je n'en connais pas de test. Hein.
Quels sont les symptômes de cette maladie, par exemple ?
La plupart du temps, ça commence par des troubles de mémoire, quand c'est Alzheimer. Après, ça peut être aussi des gens qui ne savent plus s'orienter, qui sont désorientés. Ça peut être de l'agressivité, des gens qui deviennent agressifs. Ça peut être aussi des gens qui, par rapport à une certaine décence, n'ont plus ce filtre-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont faire n'importe quoi, donc vous ne le reconnaissez pas. La plupart du temps, c'est quand même des troubles de mémoire. Les gens qui ne trouvent pas leurs mots et qui oublient. Et donc, ils font répéter tout le temps la même chose. C'est très fatigant pour les aidants. Hein.
C'est très compliqué pour les aidants. Justement, l'intérêt de ces formations.
Alors moi, je vais vous raconter, ma mère était Alzheimer. On est trois filles et c'est vrai, elle est partie il y a 12 ans. Et si on avait su qu'il y avait des formations, on aurait mieux accompagné notre mère. À partir du moment où, dans la famille, on a quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, il faut faire une formation pour comprendre ce qu'est la maladie et mieux accompagner la personne. C'est primordial. Vous voyez, hier, il y avait la formation, je discutais avec un monsieur qui était là et qui m'a dit « Ça me fait tellement du bien d'entendre ce que j'ai entendu, je vais aller mieux par rapport à ma mère. » Parce que si vous voulez, quand, effectivement, il y a des gens qui nous disent « Moi, j'en peux plus de l'entendre radoter », elle est malade, cette personne. Et des fois, elle n'a pas l'air malade, mais elle l'est.
Mais pour les aidants, c'est 24 heures sur 24, donc ça peut être très fatigant.
Absolument. Et 24 heures sur 24, donc c'est effectivement, c'est du non-stop. Puis vous avez aussi des aidants qui sont eux-mêmes malades, qui ont des problèmes de santé. Donc c'est très, très fatigant.
D'où l'intérêt de se tourner justement vers l'association pour savoir que ces formations existent et d'en bénéficier.
Bien sûr. Paradoxalement, c'est très difficile de remplir les formations. Les gens, ils nous disent « on voudrait », et quand on en fait, on a du mal à les remplir.
Comment vous l'interprétez ?
Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'il faut qu'ils se rendent disponibles pour suivre. C'est la journée, et effectivement, ça demande un petit peu de disponibilité, mais c'est tellement important. Et moi, je dirais aussi qu'il faudrait que les personnels de santé soient formés. Par exemple, les auxiliaires de vie qui viennent à la maison, les aides-soignantes, même les infirmières. Ce personnel devrait être formé parce que sinon on ne comprend pas la maladie. Mais à côté de ça, on a donc les groupes de parole. Nous, on en a un digne et un manosque et un en distanciel. On a trois groupes de parole chaque mois.
C'est très important.
Et ça, c'est très important. Comme ça, les aidants peuvent se rencontrer entre eux. Il y a même des aidants qui maintenant, certains sont devenus amis parce qu'ils se connaissent pas par rapport à ça. On a également des entretiens individuels. Ça veut dire qu'on permet à quelqu'un de rencontrer un psychologue clinicien 5 fois, 1 heure, gratuitement. Soit donc à Manosque, soit en distanciel. C'est très très important aussi.
Est-ce que les familles peuvent se rendre sur aide.francealzheimer.org pour connaître tous les dispositifs de soutien dont peuvent bénéficier les personnes malades et leurs aidants ?
Ben non, ils nous appellent nous.
Ils vous appellent vous. D'accord, très bien. Sur Manosque.
Nous, on a ces informations et localement, on peut les aider. Donc oui, ils nous appellent nous. Mais vous savez, la plupart du temps, les demandes qui arrivent à Paris, on nous les renvoie. Ben déjà, la première chose à faire, c'est de faire un dossier à pas. Dossier qui va donc au conseil départemental à Digne, où là, une coordinatrice va venir au domicile de la personne, et il faut que l'aidant soit là, surtout très important. Et là, un nombre d'heures va être attribué, ça peut être une auxiliaire de vie, ça peut être un ergothérapeute, ça tout ce qu'il faut pour aider la personne. On travaille beaucoup avec la Comède à Manosque, qui va à domicile pour voir les besoins. Après, vous avez les CCAS. Le CCAS de Manosque vient de faire une plaquette où il y a tout, alors après c'est que pour tous les aidants, mais nous on est sur cette plaquette hein, pour Alzheimer. Vous avez les mairies bien entendu, les CMS, très important, centres médico-sociaux, ça c'est très important aussi, le conseil départemental effectivement, ça ce sont des relais.
Bien sûr, d'où l'importance de venir vous voir, de pousser la porte de l'antenne de Manosque.
Bien sûr, il faut le SIAD par exemple pour avoir une infirmière. Pourquoi ? Parce que la plupart prennent des médicaments en dehors de la maladie si vous voulez. Et on sait très bien que quand quelqu'un est Alzheimer, il ne peut plus prendre ses médicaments tout seul. Et on a, nous, des activités pour les malades. On a un atelier de musicothérapie qui a énormément de succès. Ils adorent ça, la musique. Et on a une musicothérapeute qui est Malvina Pastor, qui est formidable. Elle vient avec son accordéon. Ils chantent, ils dansent, ils tapent dans les mains, ils font de la musique. C'est une merveille. On a une art-thérapeute qui est très bien aussi, c'est Justine Boulard. Voilà, ils aiment bien, ils peignent, ils dessinent. Tout ça, elle leur met un petit peu de musique pour que ce soit sympa. On a en ce moment un programme Vivre avec la maladie qui est axé sur le cognitif et c'est M. Fabrice Venois, qui lui est psychothérapeute pour essayer de maintenir, si vous voulez, des fonctions cognitives. Et on a un groupe d'entraide aujourd'hui, parce que c'est tous les vendredis sur généralement 6 ou 8 semaines, où là il y a 1 heure de cognitif et après 1h30 de loisirs créatifs et ludiques. On a également de temps en temps des sorties aidants aidés. Ils peuvent aller au Vanade, ça veut dire qu'on les ils sont allés déjà visiter une église ou visiter, enfin vous voyez, des endroits emblématiques de Manosque. C'est plus difficile pour nous d'aller à l'extérieur parce que pour un aidant quelquefois de prendre encore la voiture, c'est difficile. Là, il y a des jardins partagés qui viennent de se monter à Manosque et je pense qu'on va les amener effectivement regarder un petit peu ce qui se passe, quoi.
Oui, c'est une très belle initiative.
Et puis après, on leur offre dans un café de Manosque, on va leur offrir un goûter. Voilà, c'est quelque chose de ludique. Ils sont allés à la médiathèque à Manosque. Ils ont fait beaucoup de choses. Au centre Giono, qu'ils ont beaucoup aimé.
Nous avons évoqué les aides sociales tout à l'heure disponibles pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il existe des aides financières disponibles également ?
Alors ça, écoutez, ce n'est pas notre partie. Et je pense que ça dépend de la situation de chaque famille. Donc, il me semble que ça... Ça dépend, toujours pareil, du conseil départemental et du CMS. Ça veut dire que moi, je conseille à la personne d'aller au CMS, par exemple à Manosque, à Fort-Calquier ou n'importe où hein, dans le département, de voir une assistante sociale et de voir effectivement ce à quoi la personne peut avoir droit.
Vous pouvez conseiller les familles pour savoir vers qui
c'est... Nous, ce n'est pas notre rôle de donner ce genre d'information.
D'accord, très bien.
On est des vecteurs. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre fois, un monsieur m'appelle en me disant « Bon, alors je vous appelle de Digne parce que je veux savoir tout sur les médicaments. » Non. Donc je lui ai dit « Voilà, vous allez appeler tel médecin de notre part. » Et lui, il va vous donner... alors, pas les médecins généralistes du coin, hein, parce que c'est pas leur truc. Mais j'ai donné, par exemple, les coordonnées du professeur Sicaldi à la Timone, qui est pour moi la référence en région PACA. Et je l'avais fait venir il y a 4 ans, je crois, à Manos, qu'on avait organisé une conférence avec Sicaldi et le docteur Bultinger de Digne. Et il y a eu beaucoup de monde, et c'était très intéressant. Je vous dis aussi qu'on a 2 consultations mémoire. On en a une à Manos avec le docteur Assemat, et une à Digne avec le docteur Bultinger. Où là, quand il y a un doute, il faut prendre rendez-vous pour être passé des tests pour le diagnostic. Il faut qu'il y ait un diagnostic de poser, c'est très important. Donc, je voulais aussi ajouter que nous avons une ligne Écoute Alzheimer. Les familles peuvent appeler au 04 92 72 70 02. Là, elles auront toutes les informations possibles. Il suffit d'appeler.
Les auditeurs retrouveront justement ces coordonnées sur le site internet.
Surtout, pour les aidants, ne restez pas isolés. Rencontrez des gens, mais l'isolement est très lourd à supporter pour les aidants. C'est ce que nous, on nous dit. Effectivement, c'est ce qu'on nous dit. Ne restez pas isolés. Il faut quand même dire les choses. C'est une maladie qui isole les familles. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui fait peur. Parce que, quelquefois, certaines personnes ont des comportements qui peuvent être un peu étranges. Et quand on a des amis qui viennent prendre le thé à la maison, vous voyez ce que je veux dire? On
n'a
pas envie de... Moi, j'ai déjà entendu des choses terribles de la part d'aidants. Donc, il faut, si vous voulez, rompre cet isolement que peut créer, quelquefois, ce genre de maladie, parce que, oui, elles font peur. C'est une réalité. Donc nous, ce qu'on espère, effectivement, c'est que, bien entendu, un médicament soit trouvé pour pouvoir guérir un jour cette maladie terrible. Parce que il faut quand même le dire, c'est très dur d'accompagner quand même quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative, nerveusement, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est du 24 heures sur 24. Par exemple, un aidant qui va amener, par exemple, le malade à l'accueil du jour, nous, on a la maison des Oliviers à Manosque, hein, ou qui va l'amener chez nous pour faire quelques activités, ça lui donne un peu de répit. Il y a une dame qui me disait l'autre fois, je vais pouvoir aller prendre un café, moi, tranquillement. Ne serait-ce que ça, sans se dire comment il va réagir, il faut que je fasse attention, etc. C'est très compliqué, puis c'est très compliqué pour les enfants aussi. Et les petits-enfants, ça touche toute la famille. C'est personnel ce que je vais dire. Par exemple, le député Jérôme Gage, dont je suis le travail, a travaillé sur la possibilité de maintenir les malades à domicile. Pour moi, c'est la voie. Mettre quelqu'un en EHPAD en début de maladie, ce n'est pas ma façon de voir à moi. Donc je pense que le malade est mieux à domicile avec tout ce qu'il faut. C'est une question politique après, parce que c'est une question de budget et de choix, si vous voulez. Donc voilà, je l'ai cité lui parce que je sais qu'il travaille dessus depuis très longtemps. Je trouve que c'est intéressant de développer des dispositifs qui permettent justement aux malades de rester à domicile le plus longtemps possible.
S'il va y avoir de toute manière de plus en plus...
Parce que les EHPAD, certes c'est bien, mais on a quand même remarqué que quand quelqu'un entre en EHPAD, il perd ses moyens rapidement. Moi je l'ai vu pour ma mère. Hein. Si j'en parle, c'est que j'ai vu ce qui s'est passé. L'EHPAD c'est bien, mais pas en début de maladie.